Chers membres de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, chers amis de la Société, comme les mois précédents, pour remplacer la séance mensuelle qui ne peut se tenir, je vous propose de lire ou d'écouter deux petites conférences. La première est intitulée « De la difficulté de garder des prisonniers dans une prison en mauvais état ». Le 27 mai 1758, sur les 8 heures du matin, Joseph Astezan, sénateur honoraire au Sénat de Savoie et juge-mage de la province de Maurienne, est averti dans son étude que deux prisonniers se sont évadés des royales prisons de la ville de Saint-Jean de Maurienne. Aussitôt, il se rend sur les lieux en compagnie de l'avocat fiscal de la province, M. Michel Parraz, et de maître Jacques-Jean-Antoine Salomon, notaire collégié du greffe du tribunal. Sur place, il retrouve Jean-Antoine Cugnet, qui remplace comme concierge des prisons depuis le 24 avril précédent Claude Mollard, qui a renoncé à ce travail après avoir été lui-même emprisonné pour avoir laissé s'évader des prisonniers. Le poste de geôlier des prisons constitue dans les grandes villes, et même à Chambéry, un poste en vue parce qu'il présente de nombreux avantages et qu'il rapporte beaucoup d'argent. Mais dans des petites villes comme Saint-Jean-de-Maurienne, le poste n'offre que peu d'intérêt et ne permet en conséquence de recruter que des gens peu qualifiés. Un concierge doit, selon la loi, savoir lire, ce qui est rarement le cas à Saint-Jean. Le juge Astezan réclame immédiatement les clés des prisons au concierge Cugnet et les remet à Bernard Quillien, soldat de justice de la ville, en lui demandant de garder le prisonnier qui se trouve encore incarcéré, ainsi que Jean-Antoine Cugnet, le concierge, qui est aussitôt enfermé dans la prison. Les évadés se nomment Marc Pascal, originaire de Bardonnèche, qui est incarcéré sur arrêt de la Chambre des comptes pour n'avoir pas payé des dépens et frais de justice, et Michel Bellot de la paroisse de Saint-Rémy, soupçonné de larcin. La petite cour intérieure des prisons est fermée par une mauvaise grille en bois nommée râteau. À partir de cette cour, on a accès au cachot du rez-de-chaussée et à la chapelle des prisons. Alors l'évasion semble s'être produite pendant qu'un maçon nommé François Feu Claude Noéton, natif de la paroisse de La Motte en Savoie, mais habitant de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, pendant que donc il travaillait à réparer la chapelle des prisons. Il faut dire que l'état de la chapelle est assez triste. Dans un devis estimatif des travaux à exécuter par main de maître en réparation et manutention des royales prisons de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, on peut lire « Les murailles de la dite chapelle sont liées par un mortier si mauvais que les pierres s'en détachent d'elles-mêmes et que la moindre pression suffit pour y faire une brèche » et s'échapper aussitôt de la chapelle, donnant en partie sur des entrées de maisons particulières et en partie sur une rue. C'est pourquoi, si l'on veut conserver en y faisant des réparations dont il est susceptible, il serait nécessaire de faire des contre-murs suffisamment épais aux trois côtés de la chapelle pour prévenir l'évasion des prisonniers, qui est très aisée de ce côté-là. Mais outre que ces murs gâteraient le plan de la chapelle, c'est que la dépense serait double plus grande et ne rendoit pas ladite cour très assurée. Les magistrats font appeler le maçon dans l'étude du juge pour l'interroger. Après lui avoir fait prêter serment sur les saintes écritures entre les mains du juge touché, ensuite de dues remontrances sur l'importance de ce serment et sur les peines qu'encourent les parjures, tant dans ce monde qu'en l'autre, ils lui font promettre de dire la vérité sur ce qu'il sera interrogé. « Avez-vous travaillé ce matin de votre métier de maçon dans les prisons de cette ville? Et savez-vous si des prisonniers se sont évadés et comment ? » François Noéton confirme qu'il travaillait depuis environ les 6 heures du matin à faire des réparations dans la chapelle, suivant un ordre qui lui avait été donné par l'intendant de la province Paul-Joseph Cisas Azinari, marquis de Grésy, comte de Cazac, et pour un prix fait donnée par l'ingénieur François Garella. Lors de son arrivée, le concierge lui a ouvert la première porte des prisons, puis celle du râteau de la cour intérieure. Il n'a alors vu personne dans les cours intérieures des prisons, car les prisonniers étaient enfermés dans leurs cachots. Il reconnaît avoir fait 4 voyages pour amener de la chaux dans la cour intérieure et 2 pour apporter de l'eau. Il confirme que les 3 premières fois, le concierge fermait bien les portes derrière lui. Lors de sa dernière sortie pour aller chercher un baquet, appelé vulgairement une gamate, utilisé pour y démêler de la chaux, soit gypse, et faire le mortier, il voit les 2 portes ouvertes et le concierge au-devant de la grande porte qui donne sur la rue. Comme il prévoit de rentrer et de sortir plusieurs fois, il recommande au concierge de tenir les prisonniers fermés dans leur cachot tout le jour. À son retour, il voit plusieurs personnes sortir des prisons en disant que des prisonniers se sont évadés. Lorsque le juge lui demande s'il a bien vu 2 prisonniers enfermés dans le cachot qui est à côté de la porte appelée râteau, si cette porte était bien fermée avec le verrou et à clé, il confirme qu'il y avait bien 2 prisonniers qu'il a vus à travers les barreaux, que la porte était poussée et comme fermée, mais qu'il ne peut rien dire à propos du verrou, ni à propos de la 2e porte qui est en dedans. Sur les généraux interrogas, c'est-à-dire sur son état civil, il répond être âgé de 40 ans, maçon de profession, n'avoir aucun bien et ne pas être parent, allié, créancier, débiteur ni domestique de Jean-Antoine Cugnet ou des 2 évadés. Lecture lui est faite de sa déposition, qu'il confirme et au bas de laquelle il fait sa marque pour être illettré. Le juge, l'avocat fiscal et le greffier signent également à l'original. Le juge et le procureur fiscal reviennent ensuite dans la prison et convoquent dans la chambre criminelle le seul prisonnier qui y reste encore. Il se nomme Jean Feu Joseph Pétine. Il est âgé de 28 ans, maçon de profession. Lui aussi n'a aucun bien ni aucun lien avec les évadés ou le geôlier. Après l'avoir assermenté, le juge lui demande s'il sait que dans le cachot en dessous du sien, il y avait 2 prisonniers qui se sont échappés. Il lui demande s'il n'a pas vu par la fenêtre de son cachot qui donne dans la cour comment ils ont fait pour s'échapper. Jean Pétine répond qu'il n'a rien vu car il dormait enfermé dans son cachot. Il a été réveillé par la femme du geôlier qui criait « Ils se sont échappés » et qui s'est mise à pleurer. Il est alors venu à la fenêtre de son cachot et a vu beaucoup de monde dans la cour intérieure. Quand le juge lui demande s'il a veillé au soir, il a bien entendu le concierge fermer les portes des cachots. Il confirme tout et ajoute que ce matin, depuis sa paillasse, il a entendu un des prisonniers dire au concierge « Mais le là, sans savoir ce que le dit geôlier portait, si c'était du pain ou de l'eau. » L'interrogatoire est terminé. Le greffier relie au détenu ses réponses. Il répond qu'il y persiste et fait sa marque pour être aussi illettré. Il reste au juge à entendre Jean-François Cugnet, le concierge des prisons. Assermenté, le gardien, détenu dans la prison, promet de dire la vérité sur le fait d'autrui et quant à son fait propre, sous peine de 5 écus d'or d'amende. Lorsque des personnes sont assermentées, celui qui fait prêter le serment explique toujours son importance et insiste sur les peines terrestres et célestes qu'encourent les parjures. Mais lorsque les questions concernent l'accusé lui-même, le juge commine le déposant de dire la vérité sous son fait propre à peine d'un certain nombre d'écus d'or d'amende. Jean-Antoine Cugnet est le fils de feu Bernard Cugnet, natif de la paroisse du Châtel. Il habite Saint-Jean-de-Maurienne, où il est concierge des royales prisons. Il est âgé d'environ 50 ans et n'a aucun bien. Interrogé s'il sait pourquoi il est emprisonné, il répond que c'est parce que ce matin, sur les 7h30, deux prisonniers, Marc Pascal et Michel Bello, se sont échappés. Il confirme que le maçon François Noëton travaillait dans la chapelle des prisons. Lui prétend que c'était depuis 4 ou 5 heures du matin, alors que le maçon parle de 6 heures. Mais cette différence n'est pas significative, parce qu'à cette époque, ceux qui savent lire donnent une heure, alors que les illettrés parlent d'un certain nombre d'heures après le jour ou avant la nuit. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des variations. Le concierge confirme également que le maçon lui a bien conseillé de tenir enfermés les prisonniers pendant la journée, car il devait entrer et sortir plusieurs fois pour son travail. Et il confirme l'avoir fait le jour même, mais aussi la veille, puisque déjà le maçon faisait des réparations. Mais, dit le juge, le cachot où se trouvaient les deux prisonniers avait-il bien ces deux portes fermées, celle qui ouvre en dedans et celle qui ouvre en dehors, fermée avec le verrou et la clé, insiste le juge. La question peut paraître surprenante quand on lit les devis de réparation à faire aux prisons, qu'il faut réparer la serrure de la porte du cachot à côté de la chapelle, celle de la seconde porte du cachot en face de la chapelle, que la serrure de la première porte des prisons est gâtée et qu'il manque la clé de la porte de la cour pour entrer au cachot et que sa serrure est hors d'usage. Le geôlier répond en deux temps. D'abord, il dit que la veille au soir, il a bien fermé les deux portes avec le verrou et la clé. Mais le lendemain matin, lorsqu'il a porté aux prisonniers vers les 7 heures du matin du pain et de l'eau, il a été obligé d'ouvrir les deux portes car la bouteille d'eau est trop grosse pour pouvoir passer entre les barreaux de la fenêtre. En sortant, il a fermé chaque porte uniquement avec le verrou. Or, explique-t-il, on peut avec un morceau de bois faire couler le verrou de l'intérieur du cachot de la porte qui s'ouvre en dedans. En ce qui concerne celle qui s'ouvre en dehors, les investigations que viennent de faire les magistrats lui ont montré que la porte qui s'ouvre en dehors est équipée d'un verrou que l'on peut aussi faire couler en étendant le bras à travers les barreaux de la fenêtre. Et cette action est facilitée par la présence de deux prisonniers dans la même cellule, car l'un peut ébranler la porte, ce qui ébranle aussi le verrou, et donne plus de facilité à celui qui tend la main pour faire couler le verrou. Mais il dit « j'ignorais tout cela jusqu'à ce qu'on le constate récemment ». Alors, il reconnaît qu'il a commis une faute en ne fermant pas à clé les portes, ce qui aurait rendu impossible l'ouverture des verrous. Sachant toutefois que la serrure de la porte qui ouvre en dedans est endommagée et qu'elle ne se manœuvre que très difficilement. Lorsque le juge lui demande s'il est vrai qu'il a laissé les deux portes d'entrée des prisons ouvertes pour laisser entrer et sortir le maçon, il le confirme, ajoutant que les prisonniers étaient dans leur cachot. Mais peu après le départ du maçon, qui était allé chercher sa gamate, il a entendu pleurer son enfant qui se trouvait dans la maison d'habitation au-dessus des prisons. Sachant que sa femme était malade et alitée, il est monté chez lui et c'est alors que les prisonniers se sont évadés. Il en a pris conscience lorsqu'il a entendu crier des voisins. Ils sont alors descendus avec sa femme dans la cour. Elle est restée pour surveiller le dernier prisonnier, alors que lui a couru après les fugitifs jusqu'à quelque distance de la ville où il a appris qu'ils étaient déjà bien loin. Le greffier lui relit sa déposition. Il y persiste et fait sa marque pour ne savoir lire. Avant de repartir, les deux magistrats retournent dans le cachot où se trouvaient les deux prisonniers qui se sont évadés, en compagnie d'un soldat de justice nommé Bernard Quillien et du concierge. Ils les font entrer dans la pièce, ferment les verrous et leur demandent d'essayer d'ouvrir la porte qui ferme en dedans. L'expérience montre que l'un tirant à soi la porte, à laquelle on peut avoir prise avec la main facilement au-dessus d'Issel, on fait ébranler le verrou et celui-ci lâche. Et par ce moyen, l'autre prisonnier, en passant son bras à travers les fers de la fenêtre, peut atteindre ledit verrou et faire couler et sortir le verrou de la bouche, soit anneau de fer dans lequel il entre. Mais, il y a une condition. C'est que le chevron de la serrure ne soit pas bloqué par la clé. La même tentative, faite sur la deuxième porte, montre également qu'on ne peut forcer le verrou que s'il n'est pas fermé à clé. 2 jours plus tard, les magistrats reviennent dans les prisons et demandent à ce qu'on amène Jean-Antoine Cugnet devant eux pour la séance dite de répétition. Le prisonnier est à nouveau assermenté et remontré, et comme le juge compte l'interroger à nouveau sur des faits le concernant, il le commine de dire la vérité sur son fait propre, à peine de 5 écus d'or. Le juge lui fait relire ses déclarations précédentes et lui demande s'il persiste dans ses réponses ou s'il a quelque chose à y ajouter, changer ou diminuer. Il déclare y persister. Le juge lui fait alors comprendre que les fortes présomptions et indices qui résultent contre lui des informations prises constitue la preuve qu'il a occasionné l'évasion des 2 prisonniers, preuve aggravée par son aveu de ne pas avoir fermé à clé les portes du cachot et d'avoir laissé la porte d'entrée et le râteau ouvert et d'avoir laissé seul le maçon dans la cour intérieure. Le fisc le tient pour coupable du délit dont il est accusé et il mérite en conséquence la peine qui lui est due. Il doit se choisir un avocat et un procureur pour défendre sa cause. Il choisit pour avocat Maître Favre et pour procureur Maître Humbert Rambaud. Le juge lui demande ensuite s'il doit dire que les témoins qui ont témoigné contre lui soient à nouveau entendus. Après consultation secrète avec son procureur, il répond que ce n'est pas le cas, mais qu'il se réserve le droit de fournir des reproches contre la personne des 10 témoins et de faire procéder à une enquête justificative s'il échoue. Le juge lui accorde 8 jours pour fournir ses reproches et pour déduire tout ce qu'il trouvera à propos pour sa défense, après quoi il disposera d'un autre délai de 15 jours pour rapporter preuve tant des 10 reproches que de ce qui aura été déduit par lui. La procédure est ouverte est publié. Le juge-mage Joseph Astezan ordonne à son greffier Jean-Michel Germain de transmettre au procureur de l'accusé les pièces du dossier. Maître Humbert Rambaud, le procureur, dépose son acte de défense le 30 mai suivant. Il annonce immédiatement que rien dans la procédure instituée contre son client ne mérite le nom de délit et qu'en conséquence, il est dans le cas de ne subir aucune peine. En effet, les présomptions et indices voudraient montrer qu'il n'a jamais fermé à clé les 2 portes du cachot dans lequel il avait enfermé les prisonniers et qu'il a laissé ouvertes ensuite les portes des prisons, qu'il aurait laissé seul le maçon pendant qu'il travaillait dans les prisons et qu'enfin, il n'a pas bien poussé le verrou de la 2e porte du cachot. Mais par ailleurs, elle marche fort mal. Or, dit Maître Rambaud, de toutes ces prétendues prétentions, aucune ne résiste au fait que le geôlier ne pouvait pas savoir que l'on pouvait ouvrir les verrous de l'intérieur. Et en plus que pour cela, il fallait qu'il y ait 2 prisonniers dans le même cachot, puisqu'on ne le découvrira qu'à l'issue de l'évasion et des reconstitutions faites par le juge. Il était même en droit de penser que les portes des cachots était à toute épreuve. Il avait bien anticipé les entrées et sorties du maçon puisqu'il avait enfermé les prisonniers dans leur cachot. Et de la même façon, on ne peut lui reprocher de ne pas être présent pendant que le maçon travaille puisque c'est pendant l'absence du maçon que les détenus se sont enfuis. Tout au plus, peut-on l'accuser d'une faute d'inattention légère et d'autant plus pardonnable qu'il n'exerce la fonction de concierge que depuis peu de temps et qu'il est donc sans expérience. Enfin, il semblerait logique de faire preuve de compassion, puisque s'il s'est absenté quelques instants, c'est parce que sa femme était malade, alitée, et qu'il entendait pleurer son fils, et on ne peut quand même pas lui reprocher d'avoir cédé à un empressement naturel d'accourir à son secours. Le procureur conclut qu'il ne s'agit donc que d'un petit défaut de prudence, plus digne de commisération que d'une peine, et qu'il y a tout le lieu d'espérer que son client sera renvoyé, quitte et absous. Maître Rambaud fait de plus remarquer que ces deux évasions, sont bien surprenantes de la part des condamnés qui sont dans le cas d'être bientôt élargis. L'avocat fiscal Parras dépose le jour même ses nouvelles conclusions. Il maintient ses accusations, expliquant que le procureur de l'accusé n'a pas réussi, par son acte de défense, à détruire toutes les présomptions retenues contre Jean-Antoine Cugnet. L'accusé est donc dans le cas de subir une peine. Mais la faute reprochée ne fait pas l'objet d'une disposition du droit dans les royales constitutions, et par conséquent, elle est à l'arbitraire du juge-mage de la province. L'avocat fiscal propose une condamnation à 2 mois de prison et aux frais et dépens de justice. Alors, cette durée de 2 mois, elle est courante lorsqu'aucune faute importante n'est retenue contre le gardien des prisons. Dans le cas contraire, une peine d'estrapade, un bannissement viennent en général se rajouter à de longues peines de prison. Les conclusions sont apportées au procureur Rambaud, et le lendemain, il déclare n'y avoir rien à répliquer et qu'il n'a rien à ajouter à son acte de défense. Le juge Astezan en prend acte et annonce qu'il doit maintenant rendre sa sentence. Il le fait le 5 juin suivant. Après avoir rappelé toutes les étapes de la procédure, il conclut que Jean-Antoine Cugnet est bien coupable de ce dont on l'accuse, et en conséquence, il le condamne aux 2 mois de prison demandés par l'avocat fiscal, aux dépens et frais de justice, et il lui donne un délai de 10 jours pour comparaître devant le Sénat de Savoie, en la personne d'un procureur postulant au Sénat, pour voir confirmer ou réparer la présente sentence. S'il ne connaît personne, le procureur des pauvres sera commis pour le représenter. L'affaire est portée devant le Sénat de Savoie dans les délais. L'avocat fiscal reprend les mêmes conclusions que l'avocat fiscal provincial. L'avocat général des pauvres auprès du Sénat, Maître Rose, réutilise les mêmes arguments de défense que son confrère de Maurienne. Et le 11 juillet, le Sénat de Savoie confirme la sentence rendue par le juge-mage de la province de Maurienne. Il ne reste plus alors à Jean-Antoine Cugnet que 15 jours à passer en prison.